إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوتي في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح الأرجوزة المائية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. فقال الناظم رحمه الله: والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد سبط الحسن وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعدي وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين ومولد سبط الرضا الحسيني. طيب إذن لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من حوادث السنة الرابعة شرع يذكر حوادث السنة الخامسة من حوادث السيرة النبوية فذكر أربع حوادث. طيب دونك ici l'auteur رحمه الله تعالى a fini de mentionner les événements de la quatrième année. Donc, pour ceux qui ont suivi, jusque-là, on a mentionné les événements jusqu'à donc, la quatrième année. Et on l'a terminé dimanche dernier. Donc, il est logique ici que l'auteur, rahimahullah ta'ala, va commencer à citer les événements de la cinquième année. Parmi les événements de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que il va en citer quatre. D'accord ? Il va citer quatre événements qui se sont déroulés la cinquième année hein, de l'égir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. طيب. فقال الناظم رحمه الله وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق وفي رواية الإفك في غزو بني المصطلق وكان في الخامسة اسمع وثقي. طيب أي في سنة الخامسة وقعت حادثة الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنزل الله تبارك وتعالى براءتها منه في آيات تتلى في كتاب الله حتى إنها رضي الله عنها لما نزلت تلك الآيات الكريمات قالت متواضعة لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يتلى. Donc, il poursuit l'auteur, rahimahullah ta'ala. Et nous disions donc qu'il va commencer à citer les événements de la cinquième année. Et il dit le Cheikh, il faut savoir que durant cette cinquième année, il y eut le mensonge proféré à l'encontre de Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha. Et aussi, bien sûr, le fait que Allah tabarak wa ta'ala a descendu son innocentement à travers des versets qui sont récités dans le livre d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc Allah jalla wa ala a innocenté Aïcha radiyallahu anha vis-à-vis des mensonges qui ont été inventés envers elle dans le Coran al-Karim. Allah jalla wa ala l'a innocenté par des versets qui sont récités à travers le Coran al-Karim. Tant et si bien que quand ces versets nobles ont été révélés, Aïcha dit par modestie, certes, mon cas est trop est pas assez important pour que Allah tabarak wa ta'ala en parle dans des versets qui se récitent. Donc par modestie, elle a voulu dire que elle ne méritait pas autant jusqu'à ce que Allah tabarak wa ta'ala descende des versets pour l'innocenter. Elle espérait pas autant. Le plus qu'elle espérait, c'était peut-être que le prophète fasse un rêve. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fasse un rêve dans lequel Aïcha aurait été innocentée. Mais elle ne s'attendait pas du tout à ce que des versets, carrément des versets, soient descendus. L'innocentant de ce mensonge qui a été proféré contre elle, radiallahu anha. C'est bon?
C'est quoi le mensonge?
Il avait accusé de fornication. Taïeb? Là. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن الكريم. Il dit Ibn Kathir dans son tafsir que les savants sont unanimes sur le fait que celui qui, malgré ça, continue à injurier Aïcha et à l'accuser de ce qu'il l'accuse après que Allah tabarak wa ta'ala ait mentionné ces versets dans le Coran al-Karim, eh bien la personne sera mécréante car elle aura été récalcitrante, entêtée. C'est comme si elle avait rejeté les versets d'Allah tabarak wa ta'ala. ثم قال الناظم في غزو بني المصطلق وكان غزوهم في سنة الخامسة من الهجرة كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى وقيل في السادسة. Puis dit l'auteur رحمه الله تعالى durant l'expédition militaire de Bani al-Mustaliq. Donc cette expédition militaire s'est déroulée donc la cinquième année de l'Hégire, comme l'a mentionné ici l'auteur, rahimahullah, et certains disent la sixième année. Donc on voit cinquième année, d'autres disent sixième année. Wa Bani al-Mustaliq hum batnun min Bani Khuza'a والمصطلق جدهم، وتسمى غزوة المريسيع نسبة إلى ماء لهم في تلك المنطقة يقال له المريسيع. وقد لقيهم عليه الصلاة والسلام على هذا الماء، وهو موضع من ناحية القديد إلى جهة الساحل، وهزمهم الله تبارك وتعالى، وقتل منهم من قتل، وسبى صلوات الله وسلامه عليه النساء وذرية والنعم والشاء. Donc, Banu al-Mustaliq, c'est des descendants de la tribu de Khouza'a. Banu al-Mustaliq, c'est un clan qui descend du clan de Khouza'a. Et al-Mustaliq, c'était le prénom de leur ancêtre. Et il faut savoir que cette expédition militaire, elle est appelée aussi l'expédition militaire de al-Muraysi'a. C'est quoi al-Muraysi'a? C'est par rapport à une eau qui appartenait à ce clan, qui se trouvait dans cette région et qui était appelée al-Muraysi'a. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, les a, donc, s'est confronté à eux, à cet endroit-là. Donc, c'est un endroit qui se trouve en direction de Qudayd, tayyib, en direction du littoral, du côté de Qudayd. Et donc, Allah, tabarak wa ta'ala, les a défaits. Allah, il les a défaits, c'est-à-dire, il a fait perdre, tayyib, le camp des kuffar. Et ont été tués ceux qui ont été tués. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retenu en captivité les femmes, les enfants, ainsi que les bêtes, les chameaux, les moutons, les chèvres, etc.
Qui?
Hein?
Qui?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Non. ثم قال الناظم رحمه الله ودومة الجندل قبل وحصل ودومة الجندل قبل وحصل عقد بنات الحارث بعد واتصل. ودومة الجندل بلدة لا تزال معروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا في منطق الجوف قبل غزوة بني المصطلق، لأن دومة الجندل كانت في ربع الأول من سنة 50 للهجرة، وبني المصطلق في سنة نفسها في شهر شعبان، كما جزم بذلك ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. في جلوتا رحمه الله تعالى ودومة الجندل. دومة الجندل. Qu'est-ce que c'est? C'est une localité qui est toujours appelée ainsi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Donc, ça s'appelle Doumatou El Jendel. Taïeb, ça se trouve dans la région de El Jouf en Arabie Saoudite. Qablou, c'est-à-dire avant l'expédition militaire de Bani al-Mustaliq. Taïeb. Donc la Doumatul Jandal s'est déroulée avant Banu al-Mustaliq. Car Doumatul Jandal s'est déroulée durant le mois de Rabi' al-Awwal, la cinquième année de l'Hijra. Alors que Banu al-Mustaliq s'est déroulée durant le mois de Sha'ban. Et Sha'ban, hein, vous savez que c'est après Rabi' al-Awwal. D'accord, Sha'ban, c'est juste avant Ramadan. Donc c'est bien après. Donc cela nous montre que Doumatul Jandal s'est déroulé avant Ghazwat Bani al-Mustaliq. Comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres que lui parmi les savants. وحصل على إثر غزوة بني المصطلق عقد النبي عليه الصلاة والسلام على بنات الحارث، وهي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وكانت من سبي بني المصطلق، وكانت وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها على نفسها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابها وتزوجها، فأعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق إكراما لسهر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد، أي بعد غزوة بني المصطلق، واتصل أي دخل بها. Puis dit l'auteur رحمه الله تعالى et ses produits, c'est-à-dire après l'expédition militaire de Bani al-Mustaliq, il y eut, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé le contrat de mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la fille de Al-Harith. La fille de Al-Harith, c'est-à-dire Juwayriya. Juwayriya bint Al-Harith, radiyallahu anha. Il faut savoir que Juwayriya, au départ, elle faisait partie des captifs, des prisonniers de guerre de la tribu de Mustaliq. Et elle était donc, elle faisait partie de, du partage qui a été donné au compagnon Thabit ibn Qais. Donc c'est lui qui en avait la possession. Et Thabit ibn Qais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un contrat, on appelle ça en arabe, yani, Al-Mukataba, qui est de fixer un montant en or par lequel la prisonnière sera libre. Donc ils ont fixé, ils s'est mis d'accord avec Juwayriya sur un montant qu'elle devait verser petit à petit à Thabit ibn Qais pour être libéré. Voyez, mais ce montant, il faut savoir qu'il était un peu élevé et elle ne pouvait pas, yani, elle-même payer ce montant-là. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a payé, il a versé ce prix de libération pour Juwayriya, et puis il s'est marié avec elle. Et il faut savoir que grâce à ce mariage, ont été libérés 100 individus de la tribu de Al-Mustaliq. 100 captifs, 100 prisonniers de la tribu de Al-Mustaliq ont été affranchis, libérés. Et ceci pour faire honneur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par rapport au fait que maintenant, cette tribu de Banu Al-Mustaliq avait des liens de mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Juwayriya. Donc pour faire honneur à cette belle famille, entre guillemets, ils ont libéré 100 personnes de la tribu de Al-Mustaliq. Wa ba'du, c'est-à-dire après la bataille de Bani Al-Mustaliq, wa tassala ay dakhala biha. Et donc après cette bataille, il s'est marié avec elle et il a consommé le mariage avec Juwayriya. طيب. فقال الشيخ العصيمي رحمه الله جعل عتقها أن تدفع إليه مالا منجما، فأدى النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها ثم أعتقها وتزوجها، فلما تزوجها أعتق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 100 أهل بيت من أهل المصطلق إكراما لأصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت آمن امرأة على قومها بما جرى عليهم من الخير والبركة في فك أسرهم. دونك يجي للشيخ العصيم رحمه الله تعالى ثابت بن قيس كما نادي الى mentionné comme condition qu'elle verse un certain montant en plusieurs fois, de manière progressive, pour qu'elle soit libérée. Et on a dit, le prophète, c'est lui qui a donc versé ce montant-là, ensuite il l'a affranchi, et ensuite il l'a épousé. D'accord ? Et lorsqu'il l'a épousé, on a dit, les compagnons du prophète, ils ont affranchi 100 individus. Taïeb. Hein ?
Chacun.
Non, en tout. En tout, 100 individus de la tribu de Al-Mustaliq. Afin de faire honneur à la nouvelle belle famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, on voit ici que Juwayriya est la femme qui a été la plus bénie pour sa tribu, pour son peuple, par rapport à ce qui lui est arrivé grâce au mariage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le bien qu'elle leur a amené, la bénédiction qu'elle leur a amené à travers ce mariage, et notamment pour le fait que énormément de prisonniers ont été libérés, grâce à ce mariage béni avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Taïeb ? Non. ثم قال الناظم رحمه الله وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنوا لحيان بدء السادسة وعقد ريحانة بنت الزيد رضي الله عنها من سبي بني قريظة وكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقها وتزوجها هذا قول وهو اختيار الناظم رحمه الله وقال الطائفة بل كانت أمته وكانت يطأها بملك اليمين ورجحه ابن القيم رحمه الله وابن كثير وغيرهما قال الصالحي وبها جزم الخلائق في ذي الخامسة أي سنة الخامسة من الهجرة في جلوتا رحمه الله تعالى et le contrat de mariage avec Rayhana. C'est-à-dire Rayhana bint Zayd, la fille de Zayd, radiallahu anha, qui faisait partie des prisonnières, elle aussi, de la tribu de Qurayza. Et il faut savoir que elle a été choisie par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été choisie par le messager d'Allah qui l'a affranchi et qui l'a épousé. Dit les shaykhs, ça c'est un des avis. Et c'est l'avis donc qu'a choisi l'auteur ici, rahimahullah. Mais il faut savoir que d'autres savants ont dit qu'elle était plutôt son esclave. Et donc qu'il a eu des rapports avec elle par rapport à son statut d'esclave et non par rapport à son statut comme quoi il a affranchi puis épousé. Donc ça c'est le second avis qui a été opté par Ibn al-Qayyim et Ibn Kathir et d'autres que l'imam Cheikh Al-Usaymi rahimahullah ta'ala, il dit c'est l'avis le plus fort inshallah. Il dit as-salihi, c'est un avis sur lequel ou vers lequel ont penché plusieurs savants. Fi dhil khamisa, c'est-à-dire durant la cinquième année de l'Hégire. Thumma banu lihyana bad as-sadisa. Ay thumma ghazwatu bani lihyan. Wa kanat fi jumad al-ula. من السنة السادسة على الصحيح كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول وكانت هذه الغزوة ليأخذ بثأر بعث الرديع فتحصنوا في رؤوس الجبال فتركهم عليه الصلاة والسلام ورجع ولم يكن قتال. Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, ensuite, Banu Lihyana, au début de la sixième année. Tayyib. Donc ensuite, il y a eu l'expédition militaire de Banu Lihyana, qui s'est déroulée durant le mois de Jumad al-Oula. D'accord ? Jumad al-Oula. Durant la sixième année, selon la vie authentique, comme l'a dit l'imam Ibn Kathir dans son livre Al-Fusul. Donc cette expédition militaire, elle a été effectuée afin de se venger de l'envoi de certains musulmans vers une tribu de Kuffar. Et il faut savoir que donc les musulmans avaient été trahis à ce moment-là. Donc le prophète alayhi salam donc a effectué cette expédition militaire pour se venger. Mais ils se sont donc réfugiés en haut des montagnes et le prophète les a laissés et il est retourné à Médine. Et donc il n'y a pas eu à ce moment-là de combat. طيب ثم قال الناظم رحمه الله وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد وبعده اي بعد ذلك donc بعده après cela استسقاؤه قال ابن الاثير وفيها اي سنه الست قهط الناس فاستسقى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتاهم المطر وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في بعض غزواته مع المشركين من غير تعيين السنة فقال إنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا فأفعم سيل الوادي فشرب الناس فارتووا والحديث رواه أبو عوانة في الصحيح عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه. Puis dit l'auteur, istisqa'uhu, sa demande d'eau, ou sa demande de pluie. D'accord ? L'invocation, et l'istisqa, c'est l'invocation pour demander la pluie, la tombée de la pluie. Il dit Ibn al-Athir, c'est-à-dire durant la sixième année, il y eut donc une sécheresse. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a demandé à Allah la pluie et la pluie est tombée. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Zad, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la pluie dans plusieurs de ses razawat, dans plusieurs de ses expéditions militaires. Le prophète il a demandé la pluie, tayyib, mais il n'a pas précisé d'année. Il a dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la pluie dans plusieurs de ses razawat lorsque les polythéistes ont précédé les musulmans et allé dans les points d'eau, autour des points d'eau. Donc ils ne pouvaient pas s'abreuver. Et donc les musulmans ont été touchés par la soif. Et ils ont commencé donc à se plaindre au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que certains hypocrites, ils ont dit, si c'était un prophète, il demanderait la pluie pour son peuple
comme Moussa l'a demandé pour son peuple. Et cela est venu aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, « Awaqad qaluha, ont-ils vraiment dit ça ?»« Asa rabbukum yasqiyakum. » Puisse votre Seigneur vous abreuver. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu ses deux mains et il a commencé à invoquer, à demander la pluie à Allah tabarak wa ta'ala. Et il n'a même pas eu le temps de rabaisser ses mains durant son invocation que les nuages ont commencé à les couvrir et que la pluie commença à tomber. Et jusqu'à ce que des torrents d'eau avaient envahi la vallée et les gens ont pu donc boire et étancher leur soif. Donc le hadith rapporté par Abu Uwana dans son Sahih, selon Aïcha bint Sa'd ibn Abi Waqqas, selon son père, radiyallahu anhuma. Wa Aïcha bint Sa'd ibn Abi Waqqas, كانت تابعية. Donc Aïcha ici bint Sa'd, c'était une tabi'iyya, d'accord? Et son père donc c'est Sa'd ibn Abi Waqqas al-Sahabi radiyallahu anhu. Naam. Donc on s'arrête là inshallah ta'ala. On a vu ici les événements de la quatrième année. On continuera donc le dimanche prochain inshallah ta'ala bi'inillah. De la cinquième année, pardon. Ma'adhir atteindre la cinquième année. Et donc, on continuera dimanche prochain. Wa l'ilmu inda Allah wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallam taslima. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.